Moi, je me sens bien et en sécurité chez moi, avec mes parents et ma sœur.
Moi, je me sens en sécurité sous mon duvet.
Moi, je me sens bien quand je suis dans la forêt.
Je me sens en sécurité en Italie parce qu'il y a un noyer. Puis je me mets dedans, puis j'ai même une branche pour m'appuyer contre. Des fois, quand je me sens pas très bien, je m'imagine là-bas. Puis quand j'y suis vraiment, bah, c'est trop bien, quoi.
Wenn die Leute neben mir Deutsch sprechen, dann fühle ich mich bei mir. Quand les gens parlent en allemand autour de moi, je me sens chez moi.
Moi, je me sens bien avec mes amis ou dans ma bulle. Je peux fabriquer ma bulle n'importe quand et n'importe où. Je ne me mets pas trop près des gens et j'essaie de trouver le silence.
Moi, je me sens en sécurité auprès de ma famille, mes grands-parents, mes parents.
Chez mes grands-parents, pour moi, c'est comme un refuge. Quand il y a mes parents qui se disputent, de temps en temps, je vais chez mes grands-parents pour me sentir un peu mieux.
Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans ton entourage, une personne qui prenait peut-être un peu ce rôle d'une personne chez qui tu pouvais te réfugier
Non. Maman nous a élevés seuls, donc en fait, on était... Elle avait des amis qu'on fréquentait pas tellement, mais en fait, on était vraiment entre enfants. J'ai plus le souvenir d'enfants, une vieille tante, ouais, qui venait avec maman et nous le dimanche. On faisait des dimanches piscine Bellerive, à Lausanne. Et puis là, c'était vraiment l'expédition, parce qu'on n'avait pas de voiture. Ça, c'est un souvenir aussi assez marquant, mais c'était plutôt avec cette tante, qui était guère plus âgée que maman, et maman. Et en fait, elle prenait le nécessaire pour toute la fratrie jusqu'au soir. Donc on était les derniers quand la piscine fermait. Et elle mettait les tomes vaudoises sous sa chaise longue pour qu'elles aient la température pour pouvoir les manger coulantes le soir. Donc voilà, en fait on passait la journée là-bas, on rentrait cramés et on avait droit à un bain tous ensemble avec, qu'est-ce qu'elle mettait dedans ? Un liquide soufré pour soigner les coups de soleil. Voilà. Ça c'était les dimanches magiques. Où elle arrivait, elle avait le courage de nous emmener tous en bus jusque là-bas, avec, j'imagine, 15 000 sacs.
Et qui donnait un peu de répit à ta mère aussi, j'imagine.
J'imagine, parce que c'était assez la liberté à la piscine.
Avec ma tante et mon tonton, bah mon tonton, il parle pas beaucoup avec moi. Il est toujours très tranquille, mais ma tante, par contre, me rejette toujours quand elle vient, parce qu'elle me ramène toujours un cadeau. Elle vient toujours en septembre parce qu'ils ont les vacances. À la fin du voyage, ils passent vers nous. Et ben, du coup, je suis toujours contente parce qu'elle me donne un cadeau.
Moi, la grand-mère du côté de ma maman, c'était une peintre. J'ai l'image d'un de ses premiers tableaux, je crois, et il est affiché dans le salon. C'est quelqu'un qui joue de la musique.
Mon grand-père, c'est comme monsieur répare tout, même pour mes cousines. À chaque fois qu'on a des jouets cassés, c'est toujours à lui qu'on donne à réparer.
Et mon grand-père, pour moi, c'est quelqu'un qui s'accroche parce que il travaille encore et même s'il a passé l'âge de la retraite, il n'a pas prévu de prendre sa retraite.
Moi, j'aime bien jardiner avec mon papy et mon ami. D'abord, on doit creuser, après, on fait un trou, on met la graine dedans.
Moi, ma grand-mère, c'est les lundis midi et les vendredis midi. J'adore son gratin de pommes de terre.
Ma mamie, c'est regarder les 12 coups de midi quand je vais chez elle. Et puis, parler de tout et de rien. Le grand-père, du côté de mon papa, c'est aussi des longues discussions sur la politique, l'histoire, sa jeunesse. Des très longues discussions.
Pour moi, ma grand-mère, c'est du bricolage. Elle était trop bien dessinée, elle fait des tableaux, puis elle peint aussi. Mon grand-père, c'est aussi du bricolage, parce que directement, quand j'étais petit, on devait changer le carrelage, j'avais 2 ans, et puis j'ai voulu les aider. Je prenais le ciment, et puis j'en mettais partout, je m'en mettais même sur le nez. Et puis à chaque fois, il me coachait, il me disait faut pas faire ça, puis il m'a appris à construire.
Alors moi, je n'ai connu aucun de mes deux grands-pères, ce qui m'a un peu manqué, je dois dire. Je n'ai connu qu'une grand-mère. Par contre, quand j'avais autour des 10 ans, mes parents me mettaient chez un oncle et une tante qui étaient paysans, à Morgin. Et là, c'était une belle période parce que j'y restais déjà au moins 3 semaines. Et c'était la période où on faisait les foins. J'ai des souvenirs qui sont vraiment très lumineux de ces journées de canicule où on ramassait le foin séché. Alors nous, avec nos petites mains et notre petite énergie. Mais il y avait une atmosphère là, une lumière extraordinaire, et il y avait une odeur aussi extraordinaire de ce foin qui est fraîchement séché, coupé le matin. Et la personne qui me vient à l'esprit là, c'est cet oncle, qui m'apparaissait aussi très vieux, mais qui était quand même plus disponible et qui était plus proche, comme son épouse du reste. Alors lui s'appelait Aloïs. Déjà Aloïs, pour moi, c'était quelque chose, parce que c'était un prénom. Il n'y avait aucun copain à l'école qui s'appelait Aloïs, ni aucune copine qui s'appelait Rosalie, comme la tante. Donc c'est ça, ça posait déjà des personnages presque d'antiquité. Et c'était des personnes qui étaient très chaleureuses et qui s'occupaient de moi. Elle faisait des bons repas, la tante. Elle était toujours aux petits soins, tu vas bien, etc. Et quand je pense à ces foins qu'on faisait, pour rentrer le foin dans la grange, donc il n'y avait pas de tracteur parce que c'était vraiment très pentu. Et lui étendait des branches qu'il allait couper pas loin du torrent à côté et faisait une espèce de triangle par terre. On mettait le foin sur ce grand triangle, puis après, il le tirait. Et pour moi, cet homme-là, c'était Hercule, quoi. Quand il faisait très chaud, au bout d'un moment, il enlevait sa chemise, je voyais ses biscottos et tout ça. Et puis, c'était lui qui prenait ces 3 ou 4 branches qu'il avait attachées avec une corde et puis qui tirait en direction de la grange. Puis, il fallait arriver, évidemment, le plus près possible de la porte de la grange pour qu'on ait moins de travail, après, à enlever le foin et le poser de gauche et de droite. Et ce qu'il y avait de marrant, c'est qu'alors que, dans le fond, c'était un effort important pour lui. Là, il me disait, tu peux monter sur le truc, si tu veux. Et moi, j'étais en haut, comme sur un char romain, si tu veux. Oui. Quand lui, il tirait le truc en bas, bon, ça ne devait pas faire beaucoup de kilos en plus, mais c'était baigné dans ce foin, et puis baigné dans cette odeur et cette lumière extraordinaire. Et ça, c'est un souvenir qui me reste, et c'est presque assimilé à comme si j'étais un grand-père. Pour moi, parce que c'était quelqu'un qui avait de la bouteille, qui travaillait beaucoup, et puis qui avait quand même du temps et de l'attention pour les autres. Et je trouvais ça génial.